RCF.
Bonjour à tous et bienvenue dans Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel, de la délicatesse, de la poésie, de l'émerveillement dans cette émission. Le poète Christian Bobin a posé définitivement sa plume et nous lui rendrons hommage. Plus que jamais, dans nos vies trépidantes et saturées, nous avons besoin de ces espaces de liberté et de contemplation que nous offrent ces livres. De la contemplation, il en sera aussi question avec trois belles expositions à découvrir sur Paris et un film d'animation en forme de lieu de mémoire. Et puis la jubilation de la langue sera aussi la partie avec une aventure théâtrale célébrant Monsieur Molière. Trois chroniqueurs pour cette émission et un invité surprise. Ingrid Blanchard, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
Vous êtes à Lyon, mais vous êtes montée à Paris pour une exposition à Beaubourg qui fait beaucoup parler d'elle, puisqu'elle nous fait découvrir une artiste méconnue en France, l'américaine Alice Neal. Et puis surprise, hein, vous avez lu Blanc, c'est le dernier livre de l'essayiste aventurier Sylvain Tesson. Laetitia Forgeon-D'Arc, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Vous êtes avec nous depuis RCF à Strasbourg. Merci beaucoup à l'équipe qui rend ce duplex possible. Avec vous, on parlera cinéma d'animation avec le très joli film consacré à la peintre Charlotte Salomon. Et puis si l'année consacrée aux 400 ans de la naissance de Molière se termine, Jean-Baptiste Poquelin n'en finit pas d'inspirer les hommes et les femmes de théâtre. La preuve avec ce Molière 401 que vous nous présenterez. Enfin, Stéphane Covio, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
Vous êtes le président de l'association Venez et Voyez. Vous êtes à mes côtés dans le Studio Bayard et je vous en remercie. Stéphane, on va vous suivre au musée de Marmottan, c'est le musée des impressionnistes à Paris, pour l'exposition Face au soleil, et puis on ira avec vous au musée du Petit Palais pour l'exposition sur le peintre Walter Sickert. Voilà trois chroniqueurs. David Groison nous fera une petite visite et puis il y aura aussi, je vous l'ai dit, un invité surprise, mais chut, je ne vous en dis pas plus. Allez, on commence.
Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
Il y a des télescopages dans l'actualité qui me mettent en joie. Au moment où la baguette française entrait au patrimoine immatériel de l'humanité, la dessinatrice Catherine Meurice entrait sous la coupole et devenait immortelle. Catherine Meurice a donc revêtu l'habit vert des vieux monsieur de l'Académie des Beaux-Arts pour faire souffler un vent d'espièglerie sur cette honorable institution. Belle reconnaissance pour la bande dessinée qui, avec cet adoubement, acquiert donc ses lettres de noblesse. Catherine Meurice, un concentré de talent, d'érudition, de sensibilité, d'extrême gentillesse, puis de beaucoup de gravité. Hein. Elle a échappé à l'attentat de Charlie, car ce matin-là, elle ne s'était pas réveillée. Et je le disais donc, Catherine Meurice, c'est aussi l'espièglerie. Alors, si vous ne connaissez pas son œuvre, commencez par la légèreté et les grands espaces. L'autofiction est à la mode, mais ici, le récit autobiographique devient vraiment lumineux. Mercredi, lors de sa réception par ses nouveaux pairs en habit vert, Catherine Meurice est revenue sur cette journée du 7 janvier 2015. « Ma jeunesse prendra fin subitement ce jour-là. Désormais, la bande dessinée m'occupera totalement, peut-être parce que ma jeunesse, comme la vôtre, y est à l'abri. » Et puis, je vous le disais, il y a cette histoire de baguette, désormais au patrimoine mondial de l'UNESCO, jolie breloque pour la boulangerie française. Mais honnêtement, de quelle baguette parlons-nous? Celle qui est vendue à moins d'un euro et malheureusement, le plus souvent, une insulte à l'art boulanger. Alors si ce week-end, hein, vous vous réunissez avec quelques proches ou amis, faites un concours de baguettes, mettez sur la table toutes sortes de baguettes, les bonnes, les croustillantes, comme celles qui vous font regretter les bonnes vieilles biscottes de mémé. Commencez la dégustation et vous verrez, la baguette française, elle n'existe pas. En revanche, Catherine Meurice existe, alors lisez ses albums et surtout faites-les circuler. Il n'y a rien de plus triste qu'un livre qui prend la poussière sur une étagère.
Je suis assez arrivé dans la vie maintenant, j'ai assez vécu pour savoir que la perte est une des plus grandes grâces qui nous soit donnée. Non seulement on ne peut pas l'éviter, on ne peut pas vivre... Et sans perdre beaucoup. On perd des forces, on perd des gens, surtout des gens. On perd des espérances. On perd beaucoup de batailles. C'est impossible de vivre sans perdre. Et quand vous sentez ça, quand vous l'avez éprouvé, il y a quelque chose comme une sorte de paix qui commence à s'installer. Vous commencez à tout simplement à accepter d'avoir à perdre tout, presque tout au fond, avec le temps, presque tout.
Christian Bobin est mort et je me suis demandé quelle était la couleur du ciel au moment où il avait fermé les yeux. Comment la forêt dans laquelle il avait élu domicile à côté du Creusot lui avait rendu hommage? L'air avait-il tremblé? Les rameaux s'étaient-ils inclinés? Quelques feuilles avaient-elles dansé dans la lumière douce de cette fin d'automne? Le poète est mort, il a quitté ses livres et sa vie simple, faite de petits riens et de choses sensibles, pour entrer dans le très haut, lui qui nous avait tant émus avec son très bas. Le poète est mort, il nous laisse ses livres, autant de perles que sa disparition nous donne l'occasion de lire ou de relire, des moments de bonheur qui donnent à la vie une saveur, une densité et un goût d'éternité. Christian Bobin s'en est allé et nous lui rendons hommage dans l'effervescence. Et pour commencer, je vous avais promis un invité surprise. Eh bien, c'est une des grandes voix de notre radio RCF, peut-être un de ceux qui connaissent le mieux Christian Bobin, tant il a été fidèle à son œuvre. Et si sur RCF, nous aimons tant Christian Bobin, c'est aussi grâce à lui. Je vous propose d'écouter Thierry Lyonnais.
Christian Bobin est certainement l'homme que j'ai le plus régulièrement interviewé et avec lequel j'ai eu un plaisir immense, immense d'échanger. Depuis 1992, lors de notre première rencontre autour de son livre Le Très-Bas, j'ai perçu toute cette capacité d'émerveillement qui habitait Christian Bobin. Alors, on parle souvent de l'esprit d'enfance de Christian Bobin. Alors oui, certes, il y avait cet émerveillement que peuvent avoir les enfants face à une pâquerette ou au cristal de roche. Il y avait ça chez lui, sans aucun doute. Mais il y avait aussi une perception très fine de la dureté de la condition humaine, de la fragilité de la condition humaine. Il y avait ce que Simone Veil appelle la pesanteur et la grâce. Moi, je l'ai trouvé vraiment incarné chez Christian Bobin. Alors, il y avait ces grands éclats de rire. Pas une interview sans éclat de rire avec Christian Bobin, mais dans ce rire-là, ce rire cristallin d'un enfant, il y avait aussi ce sens du dramatique de la vie. Donc, il y avait toujours dans le même éclat de rire la légèreté et puis la douleur, les larmes retenues, la compassion qu'il habitait. Un des plus beaux souvenirs d'une des interviews avec Christian Bobin est autour de l'Esprit de Noël, une émission que nous allons rediffuser au moment de Noël. J'avais téléphoné à Christian Bobin pour lui dire que je souhaitais réaliser une interview avec lui, une longue émission d'une heure, pour essayer de parler de l'essence de l'Esprit de Noël, le meilleur de l'Esprit de Noël. Il me répond, ah, vous savez, je suis pas très à l'aise avec cette fête de Noël. Elle est à la fois si mystérieuse, si belle, et en même temps si dévoyée, si marquée par la consommation, le consumérisme. Ah, vous savez, vraiment, ça m'embête. Rappelez-moi la semaine prochaine, je vais réfléchir et je vous dirai. La semaine suivante, je reprends mon téléphone, je l'appelle toujours sur sa ligne fixe, il n'avait pas de portable. Et puis, il me dit, oh, vous savez, je suis très embêté, non, j'ai pas très envie de parler de Noël comme ça. Ça m'est difficile, Thierry, je suis désolé. Vous allez la passer quand, cette émission? Je lui dis, elle va passer le 24 au soir. Ah, le 24 au soir, ça veut dire qu'elle va s'adresser à des gens qui seront seuls ce soir-là. Alors écoutez, d'accord, on va essayer. Venez chez moi, mais ne préparez rien. Je ne préparerai rien, vous ne préparez rien. On se mettra tous les deux comme des enfants autour du micro. Parce qu'il faut qu'on ait un esprit d'enfant, vous et moi, pour parler au plus près de Noël et de l'esprit de Noël. Et puis, venez, et on essaiera. Si c'est bon, ça passera, sinon on abandonnera. Et on a fait l'une des plus belles interviews que j'ai pu réaliser dans ma vie, en improvisant avec lui, avec lui, que je pouvais réaliser ce type d'interview. Voilà, Christian Bobin, c'était ça, l'émerveillement, la pesanteur et la grâce. Un grand souvenir, un grand, grand souvenir. Christian Bobin, sa voix nous restera, ses écrits nous resteront, mais il nous manquera, il me manquera.
Voilà, le témoignage de Thierry Lyonnais, producteur de l'émission Visage sur RCF, des émissions que vous pouvez retrouver sur rcf.fr. Allez-y, allez écouter les émissions avec Christian Bobin, hein, juste pour le bonheur d'entendre le rire de Christian Bobin. Un rire simple, franc, communicatif, qui vous fera durablement du bien. Alors, on est dans l'effervescence, les chroniqueurs sont là, ils ont préparé. Ingrid, pour vous, Christian Bobin, c'est une découverte toute récente.
Oui, et je suis absolument ravie, Stéphanie, que vous ayez proposer à Thierry d'en parler, parce que moi, c'est par ses émissions, par les émissions Visias de Thierry, que j'ai vraiment découvert Christian Bobin. Je l'avais pas lu du tout, et dans ses interviews que j'ai entendues sur RCF, j'avais été très touchée par cet homme qui vivait en marge du monde, hein, et retiré dans les bois près du Creusot, et puis surtout par tous les petits moments de grâce et de justesse qui surgissaient de ses réponses, à la fois sur l'enfance, sur l'amour, sur la joie. Et Thierry l'a vraiment dit, une sorte d'émerveillement permanent pour les petites choses du quotidien. J'avais senti chez lui une sorte de confiance éperdue dans ce quotidien, qui m'avait fait, quand je l'avais écouté, en fait, vraiment beaucoup de bien sur le coup, alors même que je l'avais jamais lu. Et je me souviens que Thierry, d'ailleurs, l'interpellait dans cette émission et puis le comparait à un moine contemplatif, et que Christian Bobin lui avait répondu « La sainteté m'a longtemps intéressée jusqu'à ce que je trouve mieux qu'elle la vie de chaque jour. » Voilà, donc j'avais trouvé ça plutôt étonnant. En tout cas, ça avait suscité ma curiosité. Et puis pour l'émission, j'ai lu un petit recueil qui s'intitule « Une petite robe de fête », qui est un récit entre prose et poésie, qui est sorti en 91, dans lequel il parle de lecture, de fatigue, de travail, d'écriture et d'enfance. Et ce qui m'a tout de suite marqué, en fait, dans l'écriture de Christian Bobin, c'est cette capacité vraiment qu'il a à mettre des mots sur les silences et à exprimer les émotions indicibles. Je crois que Bobin, c'est une langue assez étonnante, assez incroyable, qui est très légère, qui est très vaporeuse. Il n'y a jamais de grand concept. C'est une écriture. Alors, il aimait beaucoup l'image du roseau, voilà, ce qui plie mais ne rompt pas, sa souplesse. Et je trouve que voilà, la langue de Bobin, c'est vraiment ça. C'est une écriture qui est souple et lumineuse, une langue poétique qui est assez inclassable. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai deux petites secondes pour citer un très court extrait.
Allez-y.
Voilà. Il écrit « À quoi reconnaît-on les gens fatigués ? À ce qu'ils font des choses sans arrêt, à ce qu'ils rendent impossible l'entrée en eux d'un repos, d'un silence, d'un amour. Le temps manque à leur temps, la vie manque à leur vie. Entre eux-mêmes et eux-mêmes, il y a une vitre. Ils longent la vitre sans arrêt. » Voilà, donc Bobin, c'est l'art aussi des très belles images à partir des petits objets du quotidien.
Laetitia, je crois que quand vous avez appris la mort de Christian Bobin, on venait de vous offrir un de ses livres.
Oui Stéphanie, on ne peut rien vous cacher. Effectivement, pour mon anniversaire, on m'avait offert ce tout petit recueil qui s'appelle « Le plâtrier siffleur ». C'est un petit recueil dit de poésie qui a été écrit en 2017. Je dis « dit » parce qu'il est écrit en prose. C'est un de ces petits recueils lumineux qui, moi, m'a fait renouer avec Christian Bobin, que j'avais beaucoup lu quand j'étais ado, en fait. Et puis laissé parce que, je ne sais pas, je le trouvais plus d'actu pour moi, ou bref. Et le plâtrier siffleur, je l'ai pris en pleine figure, en fait. Je m'y suis retrouvée vraiment dans cette capacité nécessaire à ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure, en fait, et qu'on ne regarde plus alors que la lumière est là. Et ce talent, cette délicatesse à parler de ces choses qui pourraient être triviales, ça m'a énormément touchée. On décrit souvent Bobin en parlant de lui comme l'écrivain de l'émerveillement. Et on pourrait en parler comme une sorte d'illuminé. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que c'est un homme qui connaît la tristesse, la mélancolie. Il dit de lui-même « je ne suis pas toujours vivant ». Ce que je trouve incroyable, en fait, c'est qu'il a trouvé lui-même ses sentinelles, en fait. Il a trouvé ses sentinelles dans Glenn Gould, dans la musique. Il a trouvé ses sentinelles dans la femme qu'il aime et qu'il nomme et pour qui il a écrit « La plus que vive ». Il n'est pas lisse, en fait. On vient de l'entendre et j'ai trouvé cet hommage très, très touchant, l'hommage de Thierry Lyonnais. C'est un homme qui connaît le manque, qui connaît la perte, qui sait ce que c'est que la souffrance et qui pourtant fait le choix de la lumière. On l'entend parler, juste, je pense que ça peut être intéressant de se tourner vers le regard qu'il porte sur Conque. Il a écrit ce petit ouvrage qui s'appelle « La nuit du cœur ». Il a été complètement fasciné par Conque, notamment, bien sûr, par les vitraux de son ami Soulages, disparu aussi, lui, il y a quelques semaines. Et c'est un endroit dans lequel il dit « Le corps cherche le repos et l'âme l'aventure ». Quand un lieu rassemble ces deux attentes, on peut le qualifier de paradisiaque. Et je trouve ça formidable parce que ça résume très bien l'homme. À la fois le repos et l'aventure, c'est complètement antinomique. Et ce paradoxe-là, il sait nous le proposer de façon très lumineuse, très accessible, très simple. C'est ça que j'aime chez Bobin.
Stéphane, je vais vous avouer, j'avais hâte de vous entendre parler de Christian Bobin parce que avec votre association Venez et Voyez, vous apprenez au public qui vous suit à contempler un tableau. Et je me dis qu'il y a aussi quelque chose de ça chez Bobin dans l'art de la contemplation.
Oui, il y a quelque chose de ça. Je ne connaissais pas Bobin. Je connaissais deux noms comme tout le monde. Il y a des livres dans ma bibliothèque qui ont été offerts à ma femme qui, elle, les lit. Et moi, je n'avais pas ouvert un livre de Bobin avant les événements récents. Et je suis tombé sur un petit texte qui s'appelle « La part manquante ». Quelques phrases qui se suivent, quelques pages, c'est très simple. Et en fait, il est à la gare de la Part-Dieu et il voit une femme, une jeune femme qui a un enfant de 4 ans. Et en fait, on comprend que tout le texte est issu de cette observation-là. Il a été près d'elle, il l'a vue, près je ne sais pas, mais il la voyait. Il a vu la manière dont elle était soustraite à l'environnement par l'attention qu'elle avait à son enfant. Il a vu beaucoup de choses de cet ordre-là qu'il a mis en relation avec des souvenirs d'œuvres de Frangelico qu'il avait observées, etc. Et c'est tout un développement de sa pensée à partir de cet événement initial de la qualité d'attention qu'il a eue à cette femme. Et on voit comment l'écriture est en fait jaillie ou coule. Je n'aime pas le mot jaillir parce qu'il y a quelque chose de précipité dans le jaillissement, alors que chez lui, il n'y a pas cette rapidité dans le surgissement des mots. Il y a quelque chose qui est simple, qui est continu, j'aime bien le mot souple qui a été prononcé tout à l'heure. Et on voit bien comment l'écriture est générée par une expérience initiale qui est de l'ordre du vu.
Et ça vous a plu ?
Ça m'a plu, bien sûr, oui.
David Groison est d'habitude avec nous, il n'est pas là, mais c'était pour lui important de nous raconter sa rencontre avec le poète. On l'écoute.
J'ai découvert Christian Bobin par la photo, un livre de photos qu'on trouve dans de nombreuses bibliothèques, signé Bobin, Booba, avec une photo en noir et blanc, un enfant qui ferme les yeux et qui colle à son oreille un coquillage énorme, plus grand que lui. Et une phrase, un titre, signé Christian Bobin, « Donne-moi quelque chose qui ne meurt pas ». Alors, ce sont des photos d'Edouard Booba qui illustrent plusieurs folios de Christian Bobin, parce qu'on trouve chez les deux le même côté un peu suranné, le noir et blanc, la douceur, un côté un peu hors du temps. Mais on y trouve aussi une même humanité. Bobin parle de la photographie des photographes, il écrit « Cette complaisance de beaucoup à en rajouter, à chercher le noir et le mortel partout ». C'est une recherche paresseuse, sûre de ne jamais échouer. Et il s'adresse à Booba, il dit « Je préfère votre entêtement à chercher des clairières. Dire « Cette vie est un jardin de roses », c'est mentir. Dire « Cette vie est un champ de ruines », c'est mentir. Dire « Je sais les horreurs de cette vie, je ne me lasserai jamais d'en débusquer les merveilles », c'est faire son travail d'homme, et vous le savez bien, ce genre de travail n'est jamais fini. » Alors on pourra lui retourner le compliment. Et c'est aussi cela, le travail accompli par Christian Bobin.
Voilà, l'hommage de David Groison dans Effervescence. Je vous propose maintenant d'écouter un nouvel extrait d'une émission de Thierry Lionnet avec Christian Bobin. C'était une émission enregistrée en décembre 2014.
Je suis étourdi, ébloui par cette vie qui va m'arracher le cœur et qui va me mettre à la porte un jour ou l'autre. Et je suis conquis par elle, amoureux d'elle qui va me lâcher. Mais en même temps, j'ai trouvé une puissance belle et peut-être au fond supérieure, je dirais celle de l'esprit, celle du redoublement de la vie dans le langage. La capacité de nommer la vie, la plus simple, la plus pauvre, de la nommer, lui donne un sang et une force et nous met en état de lutter à armes égales avec la mort certaine et même à faire en sorte que cette mort-là n'est pas le dernier mot. L'écriture, pour moi, c'est l'art de toute présence et c'est l'art de toute résurrection. Et la vie qui passe et ne sait que passer et qui est bouleversante par ce passage même, qui est poignante, de nous sourire et de tourner aussitôt la tête, eh bien, cette vie-là, elle est comme... elle trouve un abri dans la caravane de papier. Voilà. Dans la caravane du livre, elle monte et elle est à l'abri à jamais.
Et pour terminer cet hommage à Christian Bobin, je voulais que nous écoutions quelques notes des variations Goldberg par Glenn Gould. Ingrid, c'est vous qui m'avez suggéré cette pièce de Bach.
Oui, parce que je crois que Christian Bobin l'aimait beaucoup. Et puis qu'il y a un peu quelque chose de, dans l'écriture de Bobin, des variations Goldberg de Bach par Glenn Gould, un petit peu de ce que Thierry évoquait au début de l'émission, de cette mélange entre pesanteur et grâce, gravité et pureté, douleur et légèreté. Voilà, donc ces petites touches-là, on les retrouve dans les variations Goldberg comme dans l'écriture de Bobin, je trouve.
Le piano de Glenn Gould et ses variations Goldberg de Bach pour terminer notre hommage à Christian Bobin, tout juste décédé dont il nous reste une soixantaine de livres à savourer.
Effervescence, la culture nous unit sur RCF.
Trois expositions au sommaire d'Effervescence cette semaine. La première se tient au musée Marmottan à Paris. À vous de jouer, Stéphane. Vous avez été voir Face au soleil, un astre dans les arts. Le musée Marmottan, on le rappelle, c'est le musée de l'impressionnisme.
Oui, c'est un musée qui est dans le 16e arrondissement où il y a la plus grande collection de Monet en dehors du musée d'Orsay. Il y a de la peinture impressionniste, il y a une petite collection de Berthe Morisot, enfin il y a beaucoup de choses. Et pas que de l'impressionnisme, c'est un musée magnifique. Il s'y tient des expositions qui en général sont très intéressantes et qui en plus ont le mérite d'être petites. Donc elles sont digestes.
Et là, ça c'est important.
Oui, c'est très important. Il y a un très beau choix d'œuvres. Et le point commun de ces œuvres, c'est qu'on y voit le soleil. C'est rare, figurez-vous. Un paysage dans lequel l'artiste a peint un soleil, c'est pas courant. Et pourtant, il y a des milliers et des milliers, des centaines de milliers, des millions
de paysages
peints. Paysages avec soleil. Ce sont les paysages peints par les enfants. Mais dès qu'un artiste passe à l'âge adulte.
On revient à Bobin, là.
Voilà. Il n'y a plus de soleil. Et donc, ils sont rares. Il y a Turner, grand peintre du soleil. Le maître de Turner, Lorrain, grand peintre du soleil. Un Avignonnais entre les deux, Joseph Vernet. Peintre du soleil. Là, on a trois grands peintres du soleil. Et pour moi, vraiment, Turner, c'est l'un des plus beaux tableaux d'exposition. C'est le tableau Turner sur lequel on voit la Mortlake Terrace. C'est une terrasse qui est au bord de la Tamise. On voit le soleil au loin. C'est à l'ouest, puisque c'est un coucher de soleil. Et on a la manière dont la lumière du soleil fait se dissoudre tout ce qu'elle touche. Ce qui fait que le tableau devient quasiment monochrome, quasiment entièrement jaune, et pourtant on distingue les lointains, les paysages urbains. Il y a des arbres au premier plan avec un effet de contre-jour majeur. Il y a une sensation de calme, de beauté, de plénitude. Turner, toute sa vie, a essayé de peindre le soleil. C'est vraiment le point focal de son attention, et éminemment dans ce tableau-là, pour moi c'est vraiment l'un des chefs-d'œuvre. Et autour de lui, toutes ses autres œuvres, ses maîtres, d'autres qui lui ont succédé, quelques impressionnistes. C'est vraiment une très belle exposition avec des découvertes. Moi j'ai découvert des artistes que je ne connaissais pas.
Non.
Bien sûr que si. Et il y en a, figurez-vous, beaucoup. Il y a des Danois, il y a des Allemands morts à la guerre 14 qui ont donc eu de très courtes carrières, qui à chaque fois ont représenté le soleil ou ont fait quelque chose dans cet effort-là de figurer peut-être l'infigurable. Parce que depuis la nuit des temps, le soleil est associé au divin et on comprend pourquoi. Et même quand la société devient monothéiste et chrétienne, eh bien le soleil continue de garder quelque chose du côté de la transcendance. Et à mon avis, ça fait partie de la chose extraordinaire qu'il y a dans le fait de peindre le soleil.
C'est le fait d'essayer de représenter l'irreprésentable, on l'aura compris, et il faut avoir perdu son esprit d'enfance pour s'y émettre, c'est ça?
Peut-être, ou alors le garder
ou
suffisamment,
le garder.
Croire qu'on peut quand même le regarder. Le peindre, à mon avis, Turner, il avait gardé son esprit d'enfance pour ça.
Alors on a compris, cette exposition Face au soleil, un astre dans les arts, c'est au musée Marmottan à Paris, et c'est jusqu'au 29 janvier.
sous le tropique du Capricorne ou du Cancer. Depuis j'ai oublié lequel, sous le soleil exactement. Sous le soleil, exactement, juste en dessous.
Les pianos de Gainsbourg, un très très bel album d'André Manoukian où il reprend au piano de célèbres thèmes de l'homme à la tête de chou. Il est régulièrement accompagné de chanteuses talentueuses et là vous aurez reconnu la voix d'Isabelle Adjani. Autre exposition, et c'est aussi une très jolie découverte de cet automne, la peintre américaine Alice Neal est présentée à Beaubourg. Je crois que c'est la première fois qu'elle est exposée en France et vous y étiez, Ingrid.
Oui, Stéphanie. Alors, Alice Neal, oui, c'est une découverte aussi pour moi, je pense pour beaucoup de personnes qui ont vu cette exposition. Alors, c'est une artiste qui est née en 1900 et qui est morte en 1984. Elle avait, pour ainsi dire, un peu tout pour être oubliée. Et c'est d'ailleurs que quelques mois avant sa mort qu'elle accède à une reconnaissance officielle. Alors, pourquoi son travail a été ignoré? Parce que je pense qu'elle cumulait plusieurs handicaps. Alors, premièrement, c'était une femme. Or, être une femme artiste pendant l'entre-deux-guerres, c'était plutôt perçu comme une curiosité. Je crois, et peut-être que Stéphane me contredira, mais que parmi ses compatriotes, seule Georgia O'Keeffe parviendra à se faire un nom. Alors non seulement c'est une femme, mais en plus de ça, elle est libre et indépendante et elle affirme ses opinions politiques en adhérant au Parti communiste en 1935, ce qui la place comme cible de la chasse aux sorcières au moment du maccartisme au milieu des années 50. Et puis enfin, dernier obstacle à sa reconnaissance, sa peinture, qui est une peinture figurative et réaliste, à contre-courant des avant-gardes de l'époque, telles que l'expressionnisme abstrait de grandes figures comme Jackson Pollock et Marthe Rothko. Voilà, donc elle avait quand même plusieurs handicaps à son actif, et je pense que ce qui la met aujourd'hui sur le devant de la scène, c'est précisément son engagement pour la lutte des classes et pour la lutte des genres qui la rendent finalement plus actuelle que jamais.
Ingrid, je crois que c'est une exposition, comme le disait Stéphane tout à l'heure, c'est une exposition à taille humaine.
Ah oui, c'est vraiment, on n'a pas la sensation de, quand on entre dans, quand on termine l'exposition, de se dire, bon, tout est flou. On ressort de cette exposition avec en mémoire les œuvres de façon très marquante à l'esprit, parce qu'elles sont extrêmement choisies et que l'espace est vraiment divisé en plusieurs thématiques, si bien que en fait le visiteur est très bien accompagné, je trouve, dans sa visite. Donc on a une partie qui est vraiment consacrée à des scènes marquantes de l'histoire américaine et mondiale, la Grande Dépression, la persécution des Juifs, le maccartisme, on l'a dit, qui sont plutôt des scènes assez sombres et toujours très engagées. Mais ce qui est vraiment au cœur de cette exposition, ce sont les portraits d'Alice Neal, pour lesquels elle est vraiment reconnue aujourd'hui. Elle a peint beaucoup de personnalités du Parti communiste, des militants, des marginaux, des victimes de violences conjugales, toutes les strates finalement de la société américaine. Elle donne finalement en quelque sorte un visage à ce que l'Amérique ne voulait pas voir à l'époque et elle nous met parfois, c'est vrai, hein, face à une réalité un peu dérangeante, mais jamais avec voyeurisme. Il y a un thème très présent dans cette exposition qui sont les femmes. Elle peint des nus qui sont très éloignés des canons traditionnels des nus féminins. Et puis, c'est une des premières artistes, je crois, à avoir peint des femmes enceintes. Et bien que ce soit devenu une icône du féminisme, elle s'empare finalement de ce thème de la maternité, qui était un thème un petit peu abandonné par le mouvement de libération des femmes dans les années 70. Mais c'est vrai que les femmes enceintes qu'elle peint ne sont pas l'image de la mère idéalisée. Hein. On est sur des tableaux qui montrent des femmes esselées, en plein postpartum, l'inquiétude dans le regard et les corps transformés par la maternité. Je crois que Alice Neal, on compare souvent son travail à la comédie humaine de Balzac, et je crois que vraiment ça tient à cette capacité qu'elle a de capturer la vie intérieure de ses modèles, leur densité psychologique. C'est vrai que les regards de ces personnages et des portraits qu'elle peint sont très très saisissant, très vibrant. On a l'impression vraiment d'avoir des personnes face à nous qui captent notre attention. Et moi, voilà, j'ai trouvé aussi qu'il y avait quelque chose d'Egon Schiele dans ses portraits et ses corps torturés. Donc, c'est une exposition. Alors, dit comme ça, peut-être que ça peut effrayer quelques personnes qui se diraient oulala, ça a l'air très très sombre. Mais il y a beaucoup de couleurs dans son travail. Et puis surtout, voilà, c'est vraiment une artiste révélée, je trouve, à travers cette très très belle exposition.
Ça se passe donc à Beaubourg et vous avez jusqu'au 16 janvier pour découvrir l'œuvre d'Alice Neal.
Effervescence, quand la culture fait briller les yeux.
Merci d'écouter RCF, Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel continue dans vos oreilles avec pour cet épisode Ingrid, Stéphane Covio, Laetitia Forge-Darc. Laetitia, vous avez vu un film d'animation qui revient sur la figure de Charlotte Salomon. Vous nous rappelez qui elle était ?
Oui, tout à fait. Alors Charlotte Salomon est trop peu connue. Elle a été un peu révélée en 2014 par un livre de David Foekinios qui a reçu d'ailleurs le prix Goncourt des lycéens. Mais je réponds tout de suite à votre question. Charlotte Salomon est une peintre. Elle est née à Berlin. Elle a vécu à Berlin. Elle a grandi à Berlin. Et elle s'est battue pour pouvoir être peintre. Elle est rentrée à l'Académie des Arts de Berlin, où elle n'a pas pu rester jusqu'au bout. Et puis, elle a été assassinée dans les camps de concentration, alors qu'elle était enceinte de 5 mois. Un destin très court, très peu connu, et qui, en fait, nous est revenu par un ouvrage qu'elle a laissé. D'aucuns disent que c'est le premier roman graphique « Vie ou théâtre ». Dans sa langue originale, ça donne « Leben oder Theater », pardon pour mon accent. Et ce roman graphique, eh bien, c'est pas moins de 1300 gouaches qu'elle a réalisées, en fait, alors qu'elle était réfugiée en France, dans le sud-est de la France, à côté de Nice, et qu'elle a éprouvé une certaine urgence, tout d'un coup, à la fois devant, bien sûr, la montée du nazisme, mais à la fois pour éviter une sorte de malédiction familiale dont elle a pris conscience après le suicide de sa grand-mère. Beaucoup de secrets familiaux lui ont sauté à la figure. Elle a découvert que non seulement sa grand-mère, mais sa maman et sa tante s'étaient elles-mêmes suicidées, et elle a été emportée dans cette espèce de panique. Et pour échapper à ce terrible destin, elle s'est mise à peindre dans les 2 ans qui ont précédé sa mort. Elle a donc produit cet énorme travail de roman graphique et de gouache.
Laetitia, on écoute la bande-annonce du film Charlotte et puis vous nous parlez du film juste après.
Peins-tu aussi des moments de joie ou seulement des moments tristes ?
Les moments tristes ont toujours l'air plus vrais.
Quelle est la fonction de l'art ? Ne déformez pas ce qui est déjà parfait.
Comment enseigner cet art ? Il ne s'enseigne pas, il s'apprend.
Êtes-vous une artiste ?
Le dessin est surtout un passe-temps pour notre Charlotte.
Mademoiselle Salomon, vous savez certainement que notre école est extrêmement sélective. Il y a la fâcheuse question de votre race.
Encore une fois réalisé une de mes difformités artistiques.
La jeune fille, c'est vous ? Elle semble attendre quelque chose de la mort.
Tu ne peux pas imaginer à quel point la vie d'artiste est difficile. Surtout maintenant.
Vous ne pouvez pas sortir ! Il rassemble les hommes juifs dans toute la ville !
Vous allez me dire où se cache ce porte-juif ?
Si tu apportes pas de bagages, personne ne croira que tu pars pour de bon. Je ferai en sorte que nous soyons tous réunis.
Bonjour Charlotte, bienvenue en France.
Alors Laetitia, qu'est-ce que ça donne à l'écran ? Comment est-ce qu'on représente en film d'animation le travail de Charlotte Salomon ?
Alors, c'est une bonne question, parce que le choix qui a été fait de la mise à l'écran de cette histoire incroyable, hein, je pense que lorsqu'on entend cette bande-annonce, on réalise le foisonnement de personnages, d'histoires, de lieux, d'histoires croisées. Et donc, je pense que le choix qui a été fait, c'était une proposition graphique simple. Pour ceux, par exemple, à qui le terme de ligne claire dit quelque chose, c'est-à-dire, voilà, on va dire Hergé, le plus connu pour la ligne claire, c'est-à-dire un dessin simple, parlant, presque enfantin. C'est le choix qui a été fait pour ce dessin animé, ce film d'animation, dirait-on aujourd'hui. Et puis, alors, j'ai lu dans certaines critiques que ça pouvait être dommageable. Moi, personnellement, je ne trouve pas. Parce que finalement, le dessin, qui est effectivement très simple, permet aussi, de temps à autre, de voir à l'écran se dessiner sous nos yeux les œuvres, véritablement, de Charlotte Salomon. Il se trouve que Charlotte Salomon, dans les 1300 gouaches qu'elle a peintes dans cette œuvre incroyable, n'a utilisé que trois des couleurs primaires. Il n'y a pas de noir, par exemple. Elle a utilisé le bleu, le rouge et le jaune. Et en fait, le dessin animé s'est appuyé sur ce code couleur et de temps à autre, sur certaines scènes, que ce soit l'école des Beaux-Arts de Berlin, que ce soit Nice, que ce soit différentes scènes, et bien tout d'un coup, les lignes se mettent à bouger et on voit véritablement les œuvres de Charlotte Salomon à l'écran. Et du coup, elles ont toute leur place. Elles ne sont pas écrasées par un dessin animé qui aurait pris trop de place. Donc ça, c'est magnifique et je trouve que le choix est très bien vu. Par ailleurs, l'histoire est effectivement, comme je le disais, assez complexe, même si elle est très courte. Elle est tellement dense. Il y a l'histoire de cette jeune fille juive, effectivement. Et puis, il y a son père, sa belle-mère, puisqu'elle a perdu sa maman. Il y a son amant, son professeur de chant, puis il y aura son mari, une Américaine qui va les accueillir dans le sud-est de la France, ses grands-parents, ça fait énormément de personnages, extrêmement touchant. C'est un film à voir, je précise. Il n'y a pas de limite d'âge, hein, mais ça n'est pas parce que c'est un dessin animé qu'il ne faut pas faire attention à quel enfant on emmène. Moi, j'ai trouvé que c'était un film qui était très dur, magnifique, mais peut-être pas à mettre devant tous les yeux.
Voilà, Charlotte, c'est signé Eric Warin et Tahir Rana. Il y a 2 ans, disparaissait la chanteuse Anne Sylvestre. À cette occasion, un mini-album vient de sortir avec 5 titres, 3 en live et 2 en studio. Anne Sylvestre, elle revient à la mode aujourd'hui. Les jeunes filles la redécouvrent grâce à son engagement féministe. Anne Sylvestre, c'est 2 carrières menées de front, en parallèle, qui ne se sont quasiment jamais croisées. Des chansons pour les enfants avec les Fabulettes et puis des chansons poétiques engagées pour adultes. La chanson qu'on va écouter réunit ces 2 univers.
Mon cœur est un oiseau dans une vieille cage, toujours il se saccage à cogner les barreaux. Mon cœur est un hibou vagabond de passage qui brave les orages pour rester près de vous. Tout ce qu'il a vécu ne l'a pas rendu sage, les coups et les pillages ne l'ont pas convaincu de rester sans bouger quand règne le tapage, quand pleuvent les outrages, qu'on cherche à le briser. Mon cœur est un brigand réduit en esclavage. S'il y perd son courage, n'accusez pas le temps. Il n'a que son amour pour tout votre héritage. Il vous le laisse en gage, interdit de séjour. Tout ce qu'il a aimé n'a pas calmé sa rage. Trahison et partage l'ont pas découragé de toujours se jeter à l'assaut du grillage, attendant que la cage finisse par céder. Resté sauvage, refusant le dressage, il est toujours jaloux. Et s'il montre les dents, c'est parce qu'il enrage que le bout du voyage s'approche à tout moment. tout ce qu'il a voulu était à votre image. Il oubliait son âge, il ne le savait plus, pour qu'il puisse goûter le vent dans son pelage. Déverrouillez la cage, vous en avez la clé, pour qu'il puisse goûter le vent dans son pelage. Déverrouillez la cage, vous en avez la clé.
Anne Sylvestre, le cœur battant.
Effervescence, Stéphanie Gallet.
Je vous le disais, 2022, on en a beaucoup parlé dans cette émission Effervescence, fut l'occasion de nombreuses manifestations autour du 4e centenaire de la naissance de Molière en 1622. Laetitia, on découvre avec vous qu'il faut plus d'une année pour célébrer le grand maître du théâtre français.
Oui, tout à fait. En l'occurrence, l'hommage à Jean-Baptiste Poquelin dont je vais vous parler a été lancé par deux personnes qui n'aiment pas les commémorations. Donc les 400 ans, ça ne leur allait pas. Ils ont baptisé leur projet Molière 401. Et donc c'est pour ça qu'on peut y aller cette année. Ces deux personnes, eh bien, c'est Yann Siprot qui est comédien et puis Serge Lipsic qui est metteur en scène, réalisateur. Ils ont monté ce projet en Alsace, projet qui s'étale un petit peu sur toute cette année puisqu'il a commencé au mois d'octobre par une représentation du Misanthrope, je vais vous en parler dans une seconde, et qu'il se projette jusqu'au printemps et à l'été 2023 dans un lieu extraordinaire. À ce moment-là sera produit les Fourberies de Scapin et puis également quelque chose qu'ils ont décidé d'appeler les Impromptus de Gunsthal. Gunsthal, c'est le lieu où sont données ces représentations. J'en dis un mot tout de suite parce que vraiment, ça fait partie du projet. En fait, dans les Vosges du Nord, entre Winstein et Langensulzbach, là vous voyez qu'on est donc bien en Alsace, existe un ancien domaine anabaptiste qui fait environ 16 hectares et qui a été transformé, habité, j'ai presque envie de dire recréé, par François et Hugues Siprot, qui sont eux-mêmes plasticiens, sculpteurs, poètes, et qui ont fait de ce coin véritablement perdu. Hein. Je n'ose pas imaginer comment se fait leur quotidien, ne serait-ce que pour aller faire les courses. Ils ont fait de ce lieu une sorte de paradis. Ils ont utilisé le relief pour créer des scènes. Ils ont restauré des granges pour qu'on puisse, en intérieur et lorsqu'il pleut, et c'est là que j'ai vu le Misanthrope, finalement faire entrer le public. Donc c'est des toutes petites jauges, bien sûr, c'est très familial, très amical. Et c'est dans ce lieu-là qu'au printemps prochain sera donné, d'une part, les Fourberies de Scapin, et puis d'autre part, ce qu'on appelle les Impromptus de Gunsthal, qui seront en fait une sorte de proposition, de travail, de création, en tout cas de rencontre avec le public qui a envie de découvrir la langue de Molière. Donc ça, c'est le projet Molière 401. Pour vous dire un mot du Misanthrope, oui. Peut-être un petit rappel pour nos auditeurs qui n'auraient plus trop en tête l'histoire d'Alceste.
Vous êtes trop bonne.
Alceste, il est amoureux de Célimène. Célimène, pour faire court, on pourrait dire que c'est une courtisane. En tout cas, elle est fantasque, elle est joyeuse. Et malheureusement, ses infidélités vont conduire Alceste, eh bien, à se retirer du monde. Et donc, c'est ce personnage, ce misanthrope, qui épingle, en fait, la société d'aujourd'hui, la cour. C'est lui qu'on découvre dans le Misanthrope. Et évidemment, en épinglant la société du XVIIe siècle, eh bien, on n'épargne pas celle d'aujourd'hui, bien sûr. Donc c'est une très, très belle mise en scène, très épurée. Est-ce que j'ai 30 secondes pour vous lire un extrait de ce que dit le réalisateur à propos de son travail sur le Misanthrope ? Oui, j'ai. Le Misanthrope, il faut le monter, le démonter et le remonter, encore jusqu'à l'épuisement, car la pièce est sans fond. C'est pour moi un chef-d'œuvre absolu, une poétique rare, des thèmes inépuisables de dissection de la nature humaine. Il traverse les siècles. Qui est capable de répondre à cette question ? Qu'est-ce donc ? Qu'avez-vous ? Voilà pourquoi il faut aller voir le Misanthrope et voilà pourquoi est-ce que ça vaut la peine d'aller voir sur le site internet de la compagnie Le Matamor pour avoir des informations et ne pourquoi pas prendre son billet pour le printemps prochain.
Molière 401. Merci Laetitia. Ingrid, je me tourne vers vous. Alors, on continue à parler, non pas théâtre, mais livre, puisque vous avez lu le dernier livre de l'aventurier Sylvain Tesson. Ça s'appelle Blanc. Vous nous rappelez qui est Sylvain Tesson ? Il fait partie de cette caste des écrivains voyageurs.
Oui, absolument. C'est un, en effet, écrivain voyageur. Vous avez quasiment tout dit, Stéphanie. Il a été reconnu puisqu'il a reçu les prix Médicis et Renaudot pour deux de ses précédents livres, Dans les forêts de Sibérie et la Panthère des neiges, qui racontait déjà des expéditions, voilà, puisque c'est sa spécialité. Et avec ce nouveau récit, Blanc, il part en expédition, un raid à ski qu'il a réalisé pendant 4 ans, de 2018 à 2021, chaque mois de mars, accompagné de son ami et guide de haute montagne, Daniel Dulac, qui va les conduire de Menton jusqu'à Trieste, en passant par les plus hauts sommets des Alpes. Alors, on suit avec lui une sorte de journal, en fait, 85 jours de traversée au cours desquels ils vont parcourir tous les deux trois, puisque un compère va venir se joindre à leur expédition. Ils vont parcourir 1600 km sous la neige, un exploit sportif à partir duquel Sylvain Tesson va tirer un récit à la fois méditatif et contemplatif. Et chacun de ces petits chapitres, parce que ce sont de courts chapitres, commence par une indication géographique du lieu de départ, du lieu d'arrivée, du kilométrage parcouru et du dénivelé. Faut pas oublier que Sylvain Tesson, il a une formation avant d'être écrivain de géographe, donc on retrouve ici son attention toute particulière à la description des lieux. Mais je dirais que voilà, c'est pas ça qui m'a le plus voilà.
Qu'est-ce qui vous a touché?
Je dirais que c'est la grande puissance de cette façon qu'il a de décrire l'expérience intérieure qu'il vit dans ce panorama sauvage et complètement immaculé qu'il traverse. Il nous propose, et d'ailleurs le titre Blanc est déjà, je trouve, finalement une évocation totale de cette poésie du blanc qu'il va nous proposer. En fait, le blanc devient à travers cette expédition beaucoup plus qu'une couleur, ça devient vraiment un paysage, voire même ce qu'il décrit comme une substance, un état qui nous fait oublier nos regrets et nos désirs, qui nous provoque voilà une sorte de blancheur intérieure, un sentiment de dissolution totale. Donc vous voyez qu'à la fois se croise son expérience de son récit sportif très physique et un sentiment intérieur de dissolution totale. Son récit raconte vraiment le contraste absolu qu'il y a entre dans notre rapport au temps et à l'espace, entre ce que vit Sylvain Tesson et, au sein de cette expédition, et le rapport au temps et à l'espace dans nos sociétés modernes où tout doit aller vite. Et puis, on est toujours tenté de se demander avec Sylvain Tesson pourquoi il s'inflige de telles expéditions. Parce qu'on le voit, il raconte des nuits à 10 degrés, la mort qui le frôle à plusieurs reprises tout au long de ce récit. Et Sylvain Tesson l'explique. Alors, il a frôlé la mort, hein, et il dit que, voilà, quand on a frôlé l'extinction des feux et qu'on a eu la chance de réintégrer son corps, on a un surcroît d'appétit. Eh bien, ce récit, il est animé en permanence de ce surcroît d'appétit. Et puis, c'est un vrai plaisir pour lui. Voilà, chacun sa définition du luxe. Il écrit « Avoir chaud quand on a eu froid est plus jouissif que manger des perles à la truffe dans un jacuzzi de champagne. » Voilà, et je crois que peut-être pour faire un petit clin d'œil à Bobin, on a ici deux écrivains de la contemplation, avec un Sylvain Tesson qui, lui, a vraiment besoin de partir et de voyager pour pouvoir écrire, hein, il le dit. Sans départ et sans expédition, je n'ai aucune matière pour écrire, alors même que Christian Bobin ne voyageait, pour ainsi dire, jamais. Donc on a ici un contemplatif nomade et un contemplatif du quotidien.
Immobile.
Et tout, voilà, exactement. Donc voilà, j'ai trouvé que le clin d'œil à Bobin voilà était aussi bienvenu.
Très joli parallèle.
De Sylvain Tesson.
Très joli parallèle. Merci Ingrid. Alors on rappelle Sylvain Tesson, ce livre c'est Blanc et c'est publié dans la collection
Blanche, évidemment, chez Gallimard.
Chez Gallimard, voilà. On avait promis une dernière exposition aujourd'hui dans Effervescence avec vous, Stéphane Covio. Là, on va au Petit Palais et on va voir, là encore, c'est un peintre inconnu, hein, Walter Sickert. Qui est Walter Sickert?
Alors, En plus, c'est une grande exposition. C'est l'inverse de Marmottan. Mais on a le plaisir des grandes expositions, là. C'est-à-dire de découvrir toute la carrière d'un peintre dont, en France, on ne connaît quasiment rien, en fait. Il y a vraiment très peu, quelques personnes qui ont entendu parler de Sickert. Et qui, en revanche, en Angleterre, est un peintre extrêmement connu. C'est un peintre qui est né en 1860, qui est mort dans les années 40. Et, bon, pour vous situer, c'est la génération de Toulouse-Lautrec, de Matisse. Et en fait, c'est un post-impressionniste. Et c'est quelqu'un qui a connu la France, qui a vécu en France pendant un temps, à Dieppe, à plusieurs reprises, et qui a été très marqué par le réalisme, avec les couleurs claires telles qu'il est pratiqué dans l'impressionnisme dans ces années-là. Il s'appelle Sickert, c'est un nom allemand en fait. Son père est allemand, sa mère était anglaise, il est né à Munich, puis après ils sont arrivés en Angleterre à la suite d'épisodes politiques que je ne décrirai pas. Et il s'est retrouvé, il a failli être acteur. Donc il est très lié au monde du spectacle et ça se voit dans sa peinture, ça fait partie des grands sujets de sa peinture. D'ailleurs, le sous-titre de l'exposition, c'est « Peindre et transgresser ».
Oui, c'est étonnant.
Oui, ben alors, bon, pour l'Angleterre de l'époque, peindre des scènes de spectacle, c'est transgresser. Parce que les acteurs sont des gens de mœurs douteuses, les actrices en particulier. Des scènes de musical, tout ça, c'est comme si on représentait des personnes peu recommandables. C'est l'Angleterre victorienne. Mais alors, il a des magnifiques tableaux qui représentent, c'est amusant parce que parfois la scène, mais beaucoup plus souvent, les spectateurs. On a l'intérieur des théâtres, on a le poulailler avec les gens qui sont heureux, qui sont éclairés par en dessous, etc. Des scènes très très vivantes. C'est une peinture qui est en touche et qui quand même se différencie de l'impressionnisme parce qu'elle a une forme d'âpreté. Il y a quelque chose d'assez séduisant dans l'impressionnisme que Sickert va abandonner pour une structure assez forte de ses compositions, une matière assez épaisse, plus épaisse j'ai envie de dire que celle de l'impressionnisme, et puis un usage des couleurs foncées aussi qui rendent sa peinture plus âpre. C'est un portraitiste aussi. C'est un personnage fantasque, c'est un dandy étonnant. Il y a beaucoup d'autoportraits de lui et on voit qu'il est cabot dans ses autoportraits. Il aime se déguiser, il aime jouer avec le public. Il a fait des choses assez étonnantes. Alors, il y a plusieurs parties dans sa carrière, mais à un moment donné, il peint une série de nus, ça c'est après 1900, de nus féminins. Là, le rapprochement avec Toulouse-Lautrec se voit, donc c'est quelqu'un qui fréquente les bordels. Des nus féminins dans une chambre toute simple, une femme nue allongée et un homme assis à côté du lit, se prenant la tête entre les mains. Alors, il se trouve que peu de temps avant, il y a eu un fait divers en Angleterre où une femme a été retrouvée morte après avoir reçu un client dans le bordel où elle résidait. On en a beaucoup parlé. Et le premier tableau qu'il a fait sur ce sujet-là, il a appelé ça Camden Town, du nom de l'affaire en question. Puis quelques temps après, il a refait un tableau avec les mêmes personnages, un peu différemment disposés, et il intitulait ça « Comment vais-je payer le loyer ?» Donc évidemment, le spectateur se raconte une toute autre histoire à partir de la même chose. Et on voit comment c'est quelqu'un qui s'amuse aussi, il se joue avec du spectateur, il a une manière assez originale de traiter ses sujets. Enfin, l'exposition est vraiment très intéressante.
Il s'appelle Walter Sickert, il est présenté au Petit Palais. Donc vous avez compris, si vous venez à Paris, il faut aller au Petit Palais voir Walter Sickert. Alice Neal, c'est à Beaubourg. Et puis l'exposition Sur le Soleil, c'est au musée Marmottan. Pour terminer cette émission, petite séance de rattrapage. Imaginez que la semaine dernière, j'ai complètement oublié d'évoquer Barbara. Erreur impardonnable, inexplicable. Ça fait 25 ans qu'elle est morte. Et pourtant, sur rcf.fr, il y a en ce moment une formidable série signée Philippe Soler sur Barbara. Allez l'écouter, c'est beau, c'est passionnant, c'est Barbara. Ça s'appelle « Dis Barbara, quand reviendras-tu ?» Allez, quelques notes de Göttingen pour terminer cette émission.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes. Mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence à Göttingen. Bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles à Göttingen, à Göttingen. Nous
nous avons nos matins blêmes et larmes grises de Verlaine. C'est la mélancolie même à Göttingen quand...
Barbara, 25 ans déjà, et vous n'oubliez pas, hein, dis Barbara, quand reviendras-tu? C'est sur rcf.fr. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission Effervescence. Merci à tous ceux qui l'ont rendue possible. Ingrid Blanchard, Laetitia Forgeau-Darc et Stéphane Covio. Merci évidemment à l'artisan de cette émission qui rend tout si fluide, Pierre Samanos. Et comme d'habitude, une citation pour la route. Aujourd'hui, c'était facile. Hein. Nous n'habitons pas des régions, nous n'habitons même pas la terre. Le cœur de ceux que nous aimons est notre vraie demeure. C'est signé Christian Bobin. C'est un extrait de La Plus Que Vive. Très très bon week-end à tous.